VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. En RDC, la mission de l'ONU MONUSCO prête à aider les autorités congolaises dans l'enquête pour faire la lumière sur le dossier de la fosse commune contenant 421 dépouilles découvertes aux environs de la capitale. Des précisions avec le porte-parole onusien à Kinshasa, Charles Bambara.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme va accompagner cette mission d'enquête qui a été diligentée sur le terrain pour aider à voir un peu plus clair sur les circonstances qui entourent cette fosse commune. Et la MONUSCO se réjouit par ailleurs qu'une enquête judiciaire ait été ouverte déjà. Et nous offrons, nous, MONUSCO, notre concours à l'équipe des techniciens sur place qui ont entamé donc les enquêtes sur le terrain. Nous attendons de prendre connaissance des détails de ce rapport des enquêteurs sur place et donc à la fin des enquêtes, que nous comptons une fois de plus accompagner, la MONUSCO est vraiment décidée à faire la lumière sur cette affaire.
Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO, au micro de Top Congo, notre station partenaire à Kinshasa. Au 21e anniversaire du début du génocide rwandais de 1994, Ibuka Rwanda, l'association rwandaise des rescapés du massacre, salue l'annonce de la déclassification par Paris des archives de la présidence française de 1990 à 1995. Un geste fort, selon les membres du groupe, qui ont souvent accusé la France de responsabilité partielle dans les événements de 1994. On écoute Jean-Pierre Dusinguze Mungu, président d'Ibuka Rwanda.
Nous espérons que, à travers les documents qui seront déclassifiés, il y aura la corroboration de ce qui est déjà connu pour justement permettre à tout le monde d'avoir accès à la vérité, qui pourrait aussi donner l'occasion aux autorités françaises de pouvoir dire voilà, eh bien, nous acceptons cette responsabilité et nous demandons pardon.
Jean-Pierre Dusinguze Mungu, joint à Kigali par Nathalie Barge. En Centrafrique, pourvoi en appel des avocats du ministre du Tourisme, Romaric Vomitiadé, condamné hier à Bangui à 2 ans de prison et à une forte amende pour attentat à la pudeur consommé avec violence sur une fille mineure. L'un des avocats, maître Jean-Louis Opaléania, dénonce un complot politique contre son client.
Il s'agit d'un complot dont les sources sont diverses. Il y a d'abord le camp duquel il est sorti pour être ministre. Il y a en plus son département ministériel. Il y a enfin ses collègues membres du gouvernement qui ne veulent plus de lui parce qu'il est tombé sur un dossier compromettant à l'égard d'un ministre conseiller à la présidence.
Maître Jean-Louis Opaléania à Bangui. Cap sur le Cameroun maintenant, les Camerounais déplacés par les incursions de la secte nigériane Boko Haram dans l'extrême nord du pays disent vivre dans des conditions désespérées. Ils estiment que le gouvernement camerounais et les agences de l'ONU ignorent leurs besoins et s'occupent en priorité des réfugiés venus du Nigeria. Le point avec Bagassi Koura.
Lawan Detakon, directeur de l'école publique de Kolofata, reconnaît qu'il a du mal à s'occuper des enfants camerounais dans leur propre pays.
Ici, au campus, ils sont au moins 520. Il y a beaucoup de choses qui manquent concernant le WC. Un seul point d'eau pour 500 élèves, ce n'est pas facile.
Il affirme que plus de 500 élèves dans son école ont une seule source d'eau potable et ils n'ont pas de latrine. Le gouvernement du Cameroun affirme qu'au moins 70 000 enfants d'âge scolaire et 100 000 personnes ont été déplacées par l'insurrection de Boko Haram. Fekwe Ngaha Joseph, chef du village d'Amang, dit avoir demandé aux bonnes âmes de prendre en charge les personnes déplacées arrivant dans son village.
Depuis 8 mois, église par église, mosquée par mosquée, on collecte un peu de 1000, on se nourrit avec. On avait recensé 1692 dans ce village.
Moussa Ibrahim, ses 3 femmes et 9 enfants ont quitté Fotokol il y a 2 mois après une attaque des combattants de Boko Haram qui a fait au moins 500 morts. Il affirme que la nourriture qu'ils reçoivent du chef Fekwe Ngaha Joseph est largement insuffisante.
Si vraiment les autorités nous comprennent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il y a les enfants qui ne trouvent pas à manger. Souvent, nous les grands, on n'arrive pas à manger. On donne aux enfants, nous on ne mange pas.
Le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Joseph Mbandam, déplore que son pays se concentre beaucoup plus sur la lutte contre Boko Haram que sur la prise en charge des déplacés internes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le gouvernement de transition salue le bon déroulement du vote qui a conduit à l'adoption d'un nouveau code électoral. Selon ce texte adopté par le Conseil national de transition, les partisans du président déchu Blaise Compaoré sont exclus des élections présidentielles et législatives d'octobre. Au Mali voisin, la justice transitionnelle était récemment au centre d'une réunion organisée à Mopti par la division droits de l'homme de la MINUSMA, la mission de l'ONU. Une rencontre à laquelle ont participé des représentants de la société civile de tous les cercles de la région. Le reportage de notre correspondant sur place, Mamadou Bokoum.
De 2012 à nos jours, le Mali a connu une crise politico-sécuritaire sans précédent. Une crise qui a entraîné des violations des droits humains sous toutes ses formes. En cette phase de réconciliation, il est impérieux de trouver des moyens et stratégies pour créer une confiance entre les Maliens, d'où la création de la justice transitionnelle. Une rencontre a eu lieu sur la question à l'intention de la société civile mopticienne. Ousmane Kane est le chef de bureau régional de la MINUSMA Mopti.
L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile qui doivent jouer un rôle primordial dans le processus de paix au Mali, mais aussi dans les mécanismes de justice transitionnelle au Mali. L'idée, c'est de donner des connaissances et des compétences à ces acteurs en vue d'une bonne participation, d'une participation active dans ces mécanismes de justice transitionnelle.
La centaine de participants sont venus de Bandiagara, Bankas, Kourou, Djenné, Douanza, Yuaru, Ténénkou et Mopti. Ils doivent jouer leur partition pour la réussite de ce mécanisme. La justice transitionnelle pourrait-elle être une solution de la crise malienne? Le chef de bureau régional de la MINUSMA Mopti répond.
Bien sûr, c'est une justice transitionnelle qui a été établie parce que dans ce pays, il y a eu un conflit et il y a eu des violations des droits de l'homme. Il faut bien qu'il y ait une justice transitionnelle, non seulement pour rétablir la vérité, mais aussi pour réparer les victimes. Et donc, c'est très important comme processus dans tout pays qui a connu une crise politique ou une crise sociale.
La justice transitionnelle repose sur quatre piliers. Le droit à la vérité et à la justice. Il y a aussi le droit à la réparation et surtout la garantie des non-répétitions. Mamadou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
Arrestation en Ouganda d'un ancien détenu de la prison américaine de Guantanamo à Cuba. Jamal Kiyemba est soupçonné d'avoir joué un rôle dans le meurtre le mois dernier à Kampala de la procureure June Kagezi. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Kiyemba, qui est ougandais, a été appréhendé en compagnie de trois compatriotes à Kampala, a indiqué hier Fred Enanga, porte-parole de la police. Arrêté au Pakistan en 2002, Kiyemba avait été envoyé à Guantanamo. Il a regagné l'Ouganda après sa libération en 2006. Selon les autorités ougandaises, des agents gouvernementaux américains ont appuyé l'opération ayant abouti à ses arrestations. Le service Swahili de la VOA chiffre à 16 le nombre total de personnes interpellées en rapport avec le meurtre, le 30 mars dernier, de la procureure Joan Kagezi. Cette dernière était chargée des poursuites contre les auteurs présumés des attentats de juillet 2010 qui avaient fait plus de 70 morts et 65 blessés dans la capitale ougandaise. Ces attaques, qui visaient des spectateurs de la Coupe du monde de football 2010 dans des lieux publics, avaient été revendiquées par le groupe Al-Shabaab.
Actualité américaine maintenant, à Boston, un jury fédéral a reconnu Joe Hart Tsarnaev coupable d'avoir perpétré les attentats de 2013 qui ont fait 3 morts et 264 blessés lors du célèbre marathon dans cette ville du Massachusetts. Le point avec Michel Joseph.
Coupable de la totalité des 30 chefs d'accusation retenus contre lui, dont 17 passibles de la peine de mort. C'est dans la deuxième phase du procès, qui commence la semaine prochaine, que le jury devra prononcer la sentence, la prison à vie ou la mort. Le verdict n'était pas une surprise dans la mesure où les avocats de Tsarnaev n'avaient pas contesté les faits contre leur client, utilisation d'armes de destruction massive et complot, en particulier les cocottes minutes qui ont explosé à la ligne d'arrivée du marathon. La défense, qui soutenait que le jeune Tsohar était seulement victime de l'influence maléfique de son grand frère Tamerlan, plaide maintenant pour la prison à vie. Selon Johar Tsarnaev, les attentats visaient à venger, avait-il écrit, les attaques des États-Unis contre les musulmans dans les guerres en Irak et en Afghanistan.
Nouveau scrutin au Nigeria en prévision des élections régionales prévues samedi. Les frontières terrestres du pays ont été fermées depuis la nuit dernière et ce jusqu'à dimanche 11h temps universel selon le ministère nigérian de l'Intérieur. Les élections de samedi concernent les gouverneurs et les parlements des États de la Fédération. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
« soyez au cœur de l'info.